totale. J'ai réfuté totalement cette histoire.
Moi, c'est une de combattre au cas d'engage. En pensant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange de paroles aux auditeurs. Le président de la République, Joseph Kabila, a inauguré lundi 18 juillet à Kananga la centrale solaire Mégatron. Selon des sources proches du gouverneur de la province du Kasaï central, cette centrale est capable d'alimenter toute la ville de Kananga en énergie électrique pour l'éclairage public et domestique 24 heures sur 24. Plusieurs initiatives similaires ont été prises à travers le pays. Certains observateurs estiment que ces initiatives relancent les débats sur la problématique de la diversification des sources d'énergie pour parer au déficit en électricité dans certaines parties du pays. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-4969. 081-890-7315 pour votre intervention en direct. Héritier Sidiakala est à la mise en onde de ce magazine. J.R. Lungembo est à la réalisation et la coordination. Et Pierrot et la Mégie a le réel plaisir de vous présenter ce magazine sous la supervision de Martin Sebougiango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-7315 ou par internet pa@radiotapis.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
En attendant la réalisation des travaux de la chute Katende dans la province du Kasaï central, la centrale solaire Mégatron a été inaugurée le lundi dernier par le chef de l'État. Cette question relance alors la problématique des diversifications des sources d'énergie électrique dans les pays, dans certaines parties où la Société nationale d'électricité a des sérieuses difficultés à desservir la population en énergie et énergie électrique. Comment alors arriver à résoudre cette question, bien sûr, en pensant à d'autres sources d'énergie? C'est la problématique de notre échange dans cette émission Parole aux auditeurs. Alphonse, vous êtes à Arou, c'est dans l'ex-province orientale. Alphonse, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. Merci beaucoup pour m'avoir associé à cette émission du jour. Pierrot, je voudrais commencer mes propos en citant le 46e article de notre Constitution qui stipule que les droits, donc nous avons droit à un logement décent, nous avons droit aussi à l'eau potable, nous avons aussi droit à l'énergie électrique. Donc c'est garanti. Alors Pierrot, il a toujours été dit que notre pays, la République démocratique du Congo, est une surabondance de richesses. Donc, autrement dit, c'est le réservoir de toutes les richesses possibles. Et malheureusement, ce qui nous manque, c'est la bonne volonté d'exploitation et la répartition légale des richesses qui manquent dans les chefs de certains hommes politiques. Alors, quand nous écoutons parler, par exemple, de plusieurs initiatives similaires prises à travers le pays, dans le sens de Kasaï dont nous venons de parler, en tout cas, cela nous surprend, Pierrot. Parce que, par exemple, nous, à l'extrême nord-est du pays, depuis l'époque coloniale, nous n'avons jamais vu un seul câble de transport de courant électrique installé par le gouvernement pour ne n'existe que quelques centres extra-coutumiers. Alors, même quand vous avez parlé de la semaine, nous n'avons aucune idée, alors que chez nous, par exemple, il y a des chutes, il y a des rapides. Même les rayons solaires qui nous noircissent tellement. Et pourtant, si on pouvait les exploiter comme il faut, ça pouvait être des richesses très énormes qui pouvaient générer même des recettes pour les trésors publics de façon permanente et même continue. Alors ainsi, Pierrot, nous voudrions souhaiter aux dirigeants actuels qui ont le pouvoir de décider, donc de répertorier tous les sites où on peut entreprendre des travaux de production de courant dans tous les coins et recoins du pays, non seulement dans les grandes villes, afin que la population que nous sommes puissions bénéficier d'une manière égale d'un côté et de l'autre côté de créer des emplois pour les chômeurs. Enfin, Pierrot, nous voudrions solliciter au président de la République, parce que depuis, comme je l'ai dit, depuis l'époque coloniale, nous n'avons aucun courant. Nous voudrions solliciter au président de la République alors de venir même donner un coup d'envoi pour créer une centrale hydroélectrique dans les territoires de Daru et même, pourquoi pas, dans la collectivité même ces séries de Kakwa, plus précisément à Ngokolo. Alors ça c'est notre souhait, que lui-même vienne donner les jalons et que lui-même revienne donc pour inaugurer comme il a fait dans les Kassai là-bas. Parce que quand nous regardons les pays voisins, nous nous retrouvons vraiment abandonnés, très abandonnés, Pierrot.
Dans le secteur de l'énergie. Merci beaucoup, Alphonse. Rappelons quand même que le projet au Kassai central, c'est l'initiative du gouvernement provincial et qui a été inaugurée par le chef de l'État. À l'instar de ce qui s'est fait là-bas, mais dommage que pour vous, dans les territoires d'Aru, à Imbokolo, partout où vous êtes, vous dites que vous ne savez pas ce que ça veut dire la SNEL, parce qu'il n'y a pas de câble, il n'y a pas d'électricité, vous êtes abandonné quand vous comparez aux pays voisins. Et vous auriez souhaité qu'il y ait une étude qui peut aujourd'hui répertorier les potentialités en électricité, en source d'énergie dans votre milieu. Vous avez parlé des chutes, des rivières, mais aussi le débat, c'est comment on peut arriver aujourd'hui dans notre pays à diversifier les sources d'énergie, hein, comme on a vu l'installation des panneaux solaires dans la ville de Karanga, à l'équateur, je crois aussi en Bandaka. Alors, si on peut, à travers ces initiatives, résoudre cette question de desserte en électricité. Merci beaucoup, Alphonse Chico. Vous êtes à Karanga, dans le Kassai central. Bonjour Chico et bienvenue.
Bonjour Chico, bonjour aux amis de l'Université de la Radio de la
Ville. Le débat est parti bien sûr de cette centrale solaire qui a été inaugurée dans la ville. Pourriez-vous nous brosser un peu ce qui s'est passé, le projet en quelques mots?
Merci beaucoup pour la parole, Chico. D'entrée de jeu, je profite de l'occasion pour féliciter les chefs de l'État au gouvernement Alex Kan pour tous les efforts, pour son implication à la réalisation de cet ouvrage. Et c'est un qui n'a pas été facile, mais il a fini par comprendre combien il est capable. Mais il y a quelque chose que je vais vous proposer, mes bureaux. Je n'oublie pas de demander à des ingénieurs de mettre en œuvre toutes les ressources dans ce dossier pour parvenir à son but. D'ailleurs, ici, je profite de l'occasion pour demander à ces ingénieurs de revoir le travail qui a été abattu. Parce que depuis que les moyens ont été lancés, jusqu'au moment où je vous parle, nous constatons que le courant est un peu faible et il y a trop de coupures. Et en plus, demander aussi aux consommateurs de gérer ça en bonne terre de famille. Je reviens maintenant à la thématique du jour, M. Thiroyane. Comme je l'ai posté sur mon commentaire, vu les difficultés que connaît la population congolaise en matière d'électricité, je pense que cette option est salutaire et viendra quand même soulager cette population. Et surtout si on respecte ces processus. Pourquoi je dis cela, M. Thiroyane et la Mégie? Vous savez bien que depuis que le Congo est devenu indépendant, parce que je dis que non, depuis les époques coloniales, comme le premier auditeur vient de le dire, les autorités chercheront à se défendre. Il n'y a jamais eu du courant dans d'autres coins ou d'autres endroits du pays, à défaut de la volonté de nos dirigeants. Mais je pense qu'à travers ce système moins poussé, cette population peut profiter de ce courant. Deuxièmement, les différents et la mairie. Même là où le courant de l'Est vient d'être installé, vous savez vous-même que les bénéficiaires vivent en délestage. Vous-même, vous savez combien de difficultés que les bénéficiaires ont aujourd'hui avec cette société. Donc, si vous m'avez bien compris, M. Thiroyane et la Mégie, vous comprendrez que l'ESNEL est incapable de fournir du courant aux besoins de la population. Troisièmement, et d'ailleurs, je pense que c'est par là que je vais terminer mon intervention, M. Thiroyane et la Mégie, si vous acceptez.
Oui.
Sur ce point, je me réjouis que, avec les camps de ces conseillers, où ceux-là, ils veulent emboîter les pas, de me suivre avec attention. Une fois réalisé ce projet, je ne croise pas les bras pour dire nous avons fait l'essentiel et négliger les grands projets tels que les barrages de Fiskatini. Pourquoi je dis cela, Pierrot? Je donne l'exemple d'ailleurs. Aujourd'hui, la ville de Kananga est alimentée. Mais ce n'est pas la province du Kassai central en général qui est alimentée. C'est les bénéficiaires qui vivent dans la ville de Kananga qui profitent de cette courant et non toute la province. Pour dire ceci, nos autorités donnent conscience aux grands projets tels que le projet de de Katine. Vous comprendrez que Biro, là-bas, il y a trop d'intérêts. Trop d'intérêts pour quoi? Là-bas. Si aujourd'hui, on alimente les courants de Katine, nous aurons beaucoup de usines, nous aurons beaucoup d'entreprises. D'ailleurs, même ceux-là qui sont au point régulier du pays, elles profitent aussi de ces courants. C'est pourquoi moi, je demande au gouvernement de ne pas tellement dire on va faire et par après, ils ne parviennent pas à l'exécuter. C'est pourquoi je leur demande, même s'ils réalisent des projets, ils fassent aussi l'effort.
Pour finaliser le barrage hydroélectrique de Katende, parce que vous avez d'abord félicité hein, ce qui a été déjà fait, la qualité de l'énergie et le reste, on sera entré dedans. C'est le début, on pourra voir prochainement avec les spécialistes comment ces courants est-il utilisé par la population. Mais je reviens quand même, parce que dans la globalité de notre échange autour de la diversification des sources d'énergie, alors Suko, vous avez dit, il serait mieux pour le Kassai central qu'on se concentre aux travaux du barrage hydroélectrique des Katende, je crois bien, mais vous estimez qu'on peut aussi recourir à des projets de l'énergie solaire si c'est moins coûteux pour permettre à certaines coins du pays d'accéder à l'électricité. Nous allons rester dans la ville de Kananga avec l'ingénieur Victor Kindi. Vous êtes ingénieur en hydroélectricité. Nous avons déjà eu plusieurs débats avec vous autour de cette situation d'accès à l'énergie. Vous avez suivi les travaux des chutes KTND pour rester dans la ville. Pourriez-vous nous brosser un peu, vous qui êtes spécialiste du domaine de l'électricité, les avantages quand même de la centrale solaire, non seulement pour la ville, mais si jamais il y a d'autres initiatives à travers le pays, quels pourront être les avantages de cette électricité solaire?
Merci bien, Pierrot. Merci bien à tous les auditeurs. Le débat du jour est attirant. Les sources d'énergie, il faut les diversifier, mais on ne peut pas les diversifier de n'importe quelle manière non plus, mais il faut simplement tenir compte des paramètres techniques de chaque lieu pour savoir quelle est la source adéquate, appropriée, qu'il faudrait installer. Pour notre pays, nous sommes dans la cuvette centrale, nous avons une grande hydrographie, nous avons une partie qui est basse et une autre partie qui est haute, donc disons l'ouest est en basse altitude et l'est est en haute altitude. Le soleil est mieux indiqué dans les hautes altitudes, il fonctionne bien, il est sans problème, mais il pose problème dans la basse altitude. Là, c'est d'abord sur le paramètre. Donc, il ne faudrait pas qu'on se dise, on se réveille, on dit, ici chez nous, nous mettons des panneaux. Non. Il faut analyser les paramètres, savoir sur l'échelle de radiation, si les lieux se trouvent à tel niveau, cette échelle part de 4 à 9,8. Il faut se retrouver au-dessus de 4. Il faut être mieux au-dessus de 6. Et là, on peut déterminer le choix à opérer.
Oui. Alors, mais quand on revient maintenant au cas pratique, parce que vous êtes à Kananga, il y a un autre ami Chico qui insistait sur le fait que ça peut être moins coûteux. Mais est-ce que si on se rend compte qu'il y a une partie du pays qui mérite mieux utiliser les solaires, pensez-vous qu'avec l'hydrographie, parce que vous avez dit nous avons un potentiel énorme, le coût peut être plus facile pour l'énergie électrique par les barrages hydroélectriques, ou bien le coût peut être aussi raisonnable si on voudrait bien recourir à l'énergie solaire?
Par comparaison, l'énergie solaire coûte plus cher que l'hydroélectricité.
Ok. Mais alors,
si on se retrouve à l'endroit où il n'y a pas de cours d'eau qu'on peut aménager pour avoir de l'hydroélectricité, on peut passer sur le solaire. Là, les paramètres déterminent le coût. Si c'est en basse altitude, ça va être cher parce qu'il faudrait à haute altitude. Alors, par exemple, la centrale qui compterait 12 000 panneaux de 245 watts installés, par exemple, en Mbujimayi, la même centrale installée à Goma ou à Bukavu, il fonctionnerait beaucoup mieux à Goma ou à Bukavu par rapport à Mbujimayi.
question d'altitude, taux de radiation élevé. C'est ainsi que le choix doit répondre d'abord aux paramètres techniques. Le paramètre de coût va venir en deuxième rang. Il faudrait absolument qu'on ne soit pas à même d'aménager une centrale, une source d'eau pour avoir une centrale hydroélectrique pour qu'on passe au solaire. Mais passer d'emblée sans tenir compte de ce facteur de radiation, et ça pose problème. Je pense que c'est le cas d'espèce, hein, ici Kananga, avançons dans le débat, on va en parler.
Alors, ingénieur Victor Kendi, la RDC a toute cette potentialité en hydroélectricité, vous l'avez dit, que ce soit même pour l'énergie solaire. Mais alors, pourquoi on peine à résoudre vraiment cette question d'accès à l'électricité? On est à 9% aujourd'hui, si on s'en tient aux chiffres en réalité, c'est à peine 9% des Congolais qui ont accès à l'électricité. Et c'est là aussi, hein, dans des quelques centres urbains. Alors, où se trouve exactement notre problème aujourd'hui dans ce secteur, 56 ans après l'accès à l'indépendance?
Mais c'est le manque d'une politique appropriée du développement du secteur de l'électricité. C'est le manque d'un programme approprié du développement de ce secteur. Voilà, c'est les deux problèmes. Ça fait longtemps que nous débattons autour de ce problème. Mmh. Il faut que le gouvernement définisse une politique de développement énergétique appropriée qui tient compte de paramètres et de spécificités de chaque lieu. Et on se met et on élabore un programme tenant compte de cette politique et on arrive à rectifier tous les lieux comme ça fait d'autres.
Et alors qu'on avait...
Tout ça se trouve à ce niveau-là. Donc, maintenant, j'abonde directement sur ce qui est fait à Kananga pour illustrer un peu la situation de manière concrète. Là où il faut qu'on définisse que là où il faut lever l'option du solaire, eh bien qu'on lève l'option du solaire. Qu'on ne tergiverse pas. Là où il faut lever l'option de l'hydroélectricité, que ça soit ainsi. Si on essaye de maquiller l'une ou l'autre option, eh bien là, ça pose problème. Parce qu'en principe, comme je venais de le dire, à Kananga, les taux de radiation se trouvent à 4,4 sur l'échelle de 9, de 0, qui dépasse de 4 à 9,8. C'est un taux faible. Et l'offre de Mégatron, stipulée, l'offre présentée depuis le 5 décembre 2013, présentait une centrale de 2 MW avec les panneaux donc de 245 watts, et cela donne un total de 8164 panneaux. Moi, je m'attendais qu'à temps en connaissant ce nombre-là de panneaux. Avec tous les mécanismes nécessaires, il faut autant de panneaux, il faut des capacités d'accumulation qui permettraient que pendant 24 heures, on a ce courant-là. Donc tous les 24 heures, et chaque jour 24 sur 24, on a ce courant-là. Ou, c'est pendant autant d'heures. Malheureusement, la centrale qu'on a installée n'a que 3800 panneaux. On l'a couplée à deux groupes électrogènes de 600 AVA. Alors, moi, je suis en train de me demander, pourquoi n'a-t-on pas respecté l'offre de Mégatron? Qui n'a pas respecté l'offre? C'est Mégatron ou c'est le gouvernement provincial?
Voilà, on va revenir.
C'est le facteur qui a amené à cette situation-là. Alors, c'est ça qui complique un peu le projet, tel que vous le dites là. Nous serons toujours à 10, à 9, à 11%. Parce qu'on ne veut pas faire correctement ce qu'il faut faire.
Voilà, on va revenir à vous parce que vous avez évoqué cette question de la politique. On a vu dernièrement le gouvernement déployer les efforts pour le projet Grand Yinga, estimant qu'il pouvait résoudre la question d'une manière globale. Mais vous avez dit, il faut faire une étude spécifique en fonction de chaque province, de chaque milieu. Il y a eu les débats autour du gaz méthane sur les lacs Kivu, le Rwanda qui a commencé à l'exploiter et fournir l'électricité. On a parlé de cette énergie solaire. Voilà, autant de problèmes qui se pose, mais malheureusement, on tourne toujours dans les débats et on pourra revenir à vous. Le temps d'écouter Patience qui est ici à Kinshasa. Bonjour Patience.
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs.
Voilà.
La préoccupation est celle-ci. Nous avions été très contents de voir les chefs de l'État octroyer au Kasaï central cette hydroélectricité-là. Mais ce que qui m'a beaucoup piqué est que pourquoi le chef de l'État l'a fait dernièrement ici, à la fin de son mandat. Il devrait le faire en principe au début là. Parce qu'il devrait en principe couvrir aussi toute l'étendue nationale. Après, il pourrait prendre chaque territoire alimenté, chaque secteur, ou chaque partie. Il doit déjà la statistique au moins de tous les territoires ou tous les secteurs. C'est-à-dire qu'il devrait faire ça dans chaque territoire. Et alors, il dit, je vous ai promis, et là, je viens réveiller. Et là où il n'a pas promis, c'est qu'il ne le fera pas.
Mmh, voilà. C'est pourquoi tout à l'heure, il y a notre ami Alphonse de Haroux qui a parlé de la volonté politique dans la réalisation de ces projets. Rappelons quand même, selon les sources du gouvernement provincial au Kasaï central, le projet a été initié par le gouvernement provincial. Ce sont les informations que nous avons initiées sur fonds propres du gouvernement provincial et l'inauguration a été réalisée par le chef de l'État. Mais du moins, patience, vous auriez souhaité voir ce genre de projet être réalisé à travers le pays pour permettre à ce que la population ait accès à l'électricité Variste. Vous êtes à Salemi, dans la province de Tanganyika. Bonjour Variste.
Bonjour, c'est le journaliste. Bonjour aussi à l'invité du jour.
Est-ce qu'il y a eu déjà aujourd'hui à Evariste, dans votre milieu, des études ou bien des initiatives pouvant permettre à la population d'accéder à l'électricité en dehors de ce que la SNEL fait, tant mieux que mal, dans votre milieu?
Chez nous, aucune étude n'a encore jamais été faite, du fait que le milieu de Kalemi, c'est un milieu qui est encore considéré comme étant un milieu rural. Et aussi, il n'y a pas une volonté politique concernant les agents qui nous gèrent. Et ce qui est là, c'est quoi? Concernant le sujet du jour, ce que moi j'ai constaté, la centrale solaire de Kasaï, là-bas, où nous avons entendu le président de la République inaugurer, cette centrale ne suffira pas pour résoudre les besoins de la population en mer. Du fait que qu'on parvienne à résoudre les besoins des populations en énergie, il faudra qu'on recourse surtout au barrage hydroélectrique. Moi, je crois que ce n'est pas une solution qui peut améliorer quand on peut arriver à améliorer le problème de l'électricité en RDC. Ce qu'ils ont fait, c'est quand même bien, mais ça ne parvient pas à résoudre les besoins de la population en énergie. C'est ce que je voudrais informer à l'exécutif.
Merci. Vous avez dit à Kalemi, vous n'avez pas vécu ce genre de projet, mais pour vous, vous estimez que la seule solution, c'est de pouvoir investir dans l'hydroélectricité. Hein. C'est ce qui est dit sur la page Facebook où le débat est très animé. Alain Mayala, qui nous a écrit de Matadi au Congo central, lui, il estime qu'aujourd'hui, le vrai débat devrait tourner autour du grand projet Inga ou d'autres mini-projets des centrales hydroélectriques. La ville de Kananga a autant de rivières dans l'Interland dont on pouvait bien investir dans l'hydroélectricité. Rappelons quand même qu'il y a le fameux, l'éternel projet en Chute-Katende, dont les travaux seraient à l'arrêt, selon les informations à notre possession, mais on pourra voir avec notre invité qui a été impliqué dans ce projet, si nous en sommes à quel niveau aujourd'hui. C'est ce qu'Alain Mayala estime qu'à travers le pays, on devrait investir plutôt dans l'hydroélectricité qui est les genres de projets solaires. Timothée Mukini, qui est à Kananga, jusque-là, la confusion plane dans nos têtes autour du véritable initiateur du projet Mégatron. Mais à ce que je sache, l'initiateur de ce projet est le gouverneur de la province. Pourquoi dans notre pays, les politiciens proches du pouvoir veulent toujours évoquer les noms du président de la République, même là où c'est pas le président de la République qui l'a fait? Nous savons que la promesse du président reste la chute Katende, dont les travaux avancent à pas des tortues, mais voilà qu'on vient aujourd'hui encore nous promettre qu'on va construire encore un mini-barrage sur la rivière Tshibashi, au lieu de pouvoir concentrer les efforts et finaliser la chute Katende. Et là, nous nous retrouvons en confusion. Papi Nonema, qui est ici à Kinshasa, ce projet est très ambitieux. Si le gouvernement arrive à reproduire une réplique de cette centrale dans toute la RDC, les Kasaï centrales, comme le reste du pays, a besoin d'énergie électrique pour amorcer son développement. Mais pour un réel développement, la RDC doit accélérer le processus de construction des barrages hydroélectriques fiables pour ainsi permettre le développement de l'industrie plutôt que de se rabattre sur l'énergie solaire qui, à ma connaissance, ne pourra pas résoudre le problème, surtout en ce qui concerne l'industrialisation du pays. Dieudonné, vous êtes à Bukavu dans le site Kivu. Bonjour Dieudonné.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour aussi aux auditeurs de la radio Capi. Je suis à Bukavu, mais J'habite souvent à Walikale.
Et le problème de la diversification des sources d'énergie qui est au centre de notre échange et d'ensemble de la province, comment aujourd'hui la population accède à l'énergie électrique et est-ce qu'il y a aussi d'autres projets qui vous permettent d'améliorer la desserte en électricité aujourd'hui?
Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Je commencerai d'abord à encourager et à saluer aussi les efforts de notre président, son excellence M. Kabila, de ce qu'il a fait. Mais sinon, je commencerai aussi à vous donner quelques exemples, parce que je vous ai dit que j'habite à Walikale.
Oui.
Nous avons à Walikale la rivière Kouya. La rivière Kouya, il y a le plan qui sont passés là. Ils essayaient quand même de fournir d'électricité. Ça n'a pas tenu. Dans 30 km de Walikale Centre, à Osokari, il y a la rivière Osokari. C'est vraiment, il y a le cours d'eau qui peut permettre aussi qu'il y ait de l'électricité, qui peut alimenter des territoires à trois territoires. Vous savez que le territoire de Walikale se place au milieu, donc il y a le territoire aussi de Lubutu, qui de là je suis au Maniema, donc l'électricité que la rivière Osokari peut produire peut même arriver au niveau de Lubutu. Et la rivière Kouya, cette rivière peut produire, peut même arriver au Sud-Kivu, vers le territoire de Kabare, même aussi à Mafiti, là je suis directement dans le territoire de Mafiti. Mais j'aimerais juste dire ceci, monsieur le journaliste, notre président devrait du moins commencer à faire ça avant le temps, ou sinon, notre pays est très très grand et nous avons des cours d'eau. Pourquoi seulement est-ce que là où le monsieur, notre président, il est parti inaugurer, je ne sais pas quoi, ce qu'il vit là-bas, est-ce qu'il n'y a pas de cours d'eau? C'est ça mes inquiétudes. Il n'y a pas de cours d'eau pour prendre les procédures au niveau de l'électricité solaire. C'est ce que moi je voulais un peu dire, mais sinon, il serait mieux et très bon de passer partout, voir, nous avons des cours d'eau, ça ne sert à rien de faire de l'électricité
solaire. Voilà, vous l'avez dit, hein, à Walikale, c'est comme partout ailleurs, notre invité les venait de le dire, le potentiel hydroélectrique de la RDC est très énorme, mais vous demandez pourquoi à Kananga on a recouru à l'énergie solaire alors. Est-ce qu'il n'y a pas de cours d'eau? Rappelons quand même qu'il y a ces projets éternels, comme je l'ai appelé, je suis très attendé, hein, les travaux exécutés par les Indiens, selon nos sources de formation, ils seraient exécutés à moitié à près de 50 ou 60%. Il faudrait encore qu'ils soient finalisés, mais vous auriez souhaité voir ce genre de projet être réalisé aussi à travers le pays, à Walikale, pourquoi pas relier Walikale, Basisi, Lubutu dans le Maniema, Kabare et aussi Kivu, avec des centrales hydroélectriques qui pourraient être construites sur les rivières telles que Osokai et Kouya. Nous avons Alexis qui est à Haru, on va retourner où nous étions tout à l'heure avec Alphonse. Je rappelle encore que le débat du jour est centré sur la diversification des sources d'énergie après l'inauguration au Kamanga, au Café central de la centrale Mégatron, centrale solaire bien sûr, pour fournir l'électricité, que ce soit l'éclairage public ou l'éclairage domestique. Et certains observateurs estiment que ces initiatives relancent les débats sur l'investissement et la diversification, comme je le disais tout à l'heure, des sources d'énergie pour parer au déficit en électricité que nous connaissons dans notre pays. Qu'en pensez-vous? 081-890-715 pour intervenir en direct.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Capi.
Ingénieur Victor Kendi, vous êtes avec nous. Vous avez suivi les auditeurs, la plupart de compatriotes, même ceux qui sont avec nous sur la page Facebook, reviennent encore sur la problématique de l'accès à l'électricité par l'hydroélectricité. Mais parce qu'on a posé la question à Kananga, il y a les projets Chutkatende dans lesquels vous avez été assez impliqué, et aujourd'hui il y a l'énergie solaire. Qu'est-ce qui se passe du côté des Chukatende, nous apprenons encore qu'il y a un autre projet pour mis sur la rivière Chibachi. C'est pourquoi notre ami qui nous a écrit, Timothée, disait tout à l'heure, là, ils vont se retrouver en confusion. Et aussi placer un mot par rapport à d'autres provinces. Hein. On a vu aujourd'hui, par exemple, l'exploitation du gaz méthane sur le lac Kivu, le Rwanda qui a inauguré une usine de production qui permet l'accès à l'électricité. Bien sûr que la RDC est encore à la traîne dans cette matière. Votre point de vue par rapport à ces questions?
Merci bien. Les auditeurs ont raison. Je suis content et ils ont déjà compris la profondeur du problème et de leurs besoins. Le Congo, c'est l'hydroélectricité. Dieu nous a donné cette hydrographie-là pour nous donner la puissance qui nous manque au moment où nous parlons et qui doit absolument venir. Vous avez parlé de Grand Yinga. Le Grand Yinga, je l'avais déjà dit à son temps, le Grand Yinga ne sera jamais pour la population. Le Grand Yinga, c'est la grandeur du Congo. C'est le Congo sur le plan géopolitique qui va offrir aux autres pays la possibilité d'avoir de l'énergie qu'ils ne peuvent pas avoir chez eux à défaut d'utiliser les centrales nucléaires. Mais nous avons la possibilité d'aménager des micros, des mini, des centrales et de grandes centrales sur l'ensemble des cours d'eau que nous avons. Si on veut bien définir la politique du développement de ce secteur, voici la première option à lever, c'est celle-là. Aménager tous les cours d'eau susceptibles de nous donner de l'électricité. C'est seulement, quand on aurait vu, pourquoi? Parce que l'hydroélectricité est durable, il est moins coûteux, demande moins d'entretien et les machines restent en place beaucoup plus longtemps. Par exemple, les panneaux solaires. Après 5 ans, on est obligé de renouveler ces panneaux. Je vous ai dit, comme par exemple à Kananga, c'est une centrale, pour répondre aux besoins, cette centrale doit coûter davantage plus cher. C'est-à-dire qu'il faut mettre beaucoup de panneaux. Et c'est dire qu'au bout de 5 ans, il faudrait commencer à le remplacer. Est-ce qu'on aura les moyens de le faire? La preuve, les gens vous ont dit que, eh ben, quand on a lancé le courant était faible, et dans une période de plus ou moins 3 heures, il y a eu plus de 7 coupures. Ce qui veut dire qu'il y a déjà des problèmes. Et ce n'est pas pour rien qu'on a amené le chef de l'État voir encore les sites de Kibachi. Le chef de l'État était élégant. Parce qu'il a dit les choses telles qu'elles étaient. Il a dit que ce n'est pas lui l'initiateur, qu'il était informé, qu'il a accordé. Et que c'était provisoire et que c'était un palliatif. Mais alors, ça aurait été mieux que cette centrale soit essentiellement solaire. Au moment où nous parlons, ce n'est pas une centrale solaire, c'est une centrale hybride. C'est-à-dire, au lieu de mettre uniquement les panneaux, on a mis 3800 panneaux au lieu de 8164 panneaux de 245 watts. Et on a couplé ces panneaux à deux groupes électrogènes de 600 kVA. D'ailleurs, on se pose que c'est pas, pourquoi ne pas mettre un seul groupe de 1200 et mettre deux groupes qui vont exiger de l'entretien, deux fois l'entretien, qui vont exiger deux fois le consommable, qui vont exiger encore le carburant qui est cher à trouver à Kananga, où nous sommes pratiquement au centre, nous sommes enclavés. Quand le litre de jus coûte 1800 francs à Kananga, ailleurs il coûte 1200. Vous comprenez tout cet ensemble. La centrale de Kananga aurait été une centrale pilote, c'est-à-dire il aurait fallu qu'on fasse essentiellement une centrale solaire, uniquement les panneaux solaires. Comme nous sommes dans la partie où le taux de radiation est faible, on se rendrait compte du rendement de cette centrale pour qu'on se dise, eh bien, on peut le faire là où les radiations sont élevées et les résultats seront bons. Au moment où nous parlons, si on ne corrige pas de cette façon-là, moi je vais me dire tout simplement que c'est un instrument pour le refaire et à but de fonds publics. Il faut que le gouvernement provincial améliore cette centrale, qu'elle soit essentiellement solaire, à la manière de l'offre qui a été présentée par Mégaton. Et d'ailleurs, si on veut mieux faire, c'est mettre la puissance, la puissance est demandée, plus quelque chose du au-dessus, ce qu'on appelle la puissance nominale. Donc, à Kananga, principalement, il faudrait qu'il y ait 12 000 panneaux, plus 10%, ce qui fait 12 200 panneaux qu'il faut placer. Et avec nos accumulateurs capables de conserver 70 MW du courant. Ainsi, on se dirait que 24 heures sur 24, la centrale solaire va fonctionner. Maintenant,
on veut se dégager des centrales thermiques, eh bien, on dit qu'on veut faire on fait une centrale solaire. Mais finalement, cette centrale n'est pas centrale solaire, elle est hybride. Pourquoi cette hybridation? Ça nous rentre encore
dans les débats techniques. Mais tout à l'heure, vous avez suivi notre ami de Walikal qui disait, mais il faut revenir à l'hydroélectricité. Nous avons évoqué cet éternel projet Chitra-Tendé. On ne doit plus se focaliser seulement dans ces débats sur le Kassai, mais le débat est parti du Kassai. Vous placez un mot rapidement parce qu'il y a un auditeur qui a demandé, parce qu'à Kananga, il n'y a pas de cours d'eau pour résoudre cette question. Et on va regarder aussi d'autres sources, comme on a vu le Rwanda exploiter les gaz méthane sur le lac Kivu et produire l'électricité rapidement.
Merci bien. Les travaux de Katende sont suspendus. Le chef de l'État a rassuré tout le monde que ces travaux doivent recommencer et ils vont recommencer. Je suis sûr. Tous les paramètres sont là. Ce qui a été fait est bien fait, est apparemment bien fait, et il faut que la suite se passe aussi convenablement. Mais c'est déjà toujours regretté. Et que les fonctionnaires de Katende ne veulent pas qu'il y ait un système de contrôle. Jusque-là, la centrale est faite par les Indiens eux-mêmes et il n'y a aucun service qui s'occupe du contrôle. Et on fait ce qu'on fait. Et quand vous demandez à quelqu'un de vous faire, il vous fait ce qu'il fait et que vous refusez vous-même de contrôler, et je ne sais même pas comment l'État, à ce moment-là, définit son rôle régalien. Et c'est là tout le problème.
Voilà.
Et alors, on va recommencer bientôt parce que le chef d'État a déclaré qu'il y a une mission qui va aller en Inde. Les Indiens sont toujours prêts à financer le projet. Il y a une mission que le gouverneur et le ministre national de l'énergie vont aller en Inde pour finaliser et qu'ils viennent qu'on redémarre les travaux.
Voilà. Mais quand on regarde aujourd'hui, pour quitter le Kassai central, parce qu'on doit évoquer cette question d'exploitation du gaz sur les lacs Kivu qui a permis au Rwanda aujourd'hui de pouvoir aussi produire de l'électricité, et nous bien sûr, un projet qui pouvait être fait ensemble, mais on est encore à la traîne pour y placer un mot, rapidement on écoute encore les auditeurs.
Oui, il est normal, comme je le disais au départ, qu'il faut tenir compte des potentialités de chaque coin. Nous avons le lac Kivu qui a du gaz, beaucoup de gaz dedans, qu'il faut qu'on fasse une étude comparative, une centrale à gaz et une centrale hydroélectrique qu'on aménagerait. Quel est le projet qui coûte le moins cher? Et si c'est la centrale à gaz qui coûte moins cher, ben il faut l'installer. Et moi, déjà, d'emblée, je peux dire, comme le lac Kivu, à l'endroit où se trouve le lac Kivu, et la quantité de gaz qui est dedans, je crois que le Congo doit se lancer aussi à la construction d'une centrale à gaz et qui produirait de l'énergie
pour,
parce que la centrale à gaz rentre dans le cadre du courant de l'énergie propre. Ce n'est pas de l'énergie polluante.
Voilà. Alors, Alexis, vous êtes à Roux. On rentre à Roux. On est avec Alphonse tout à l'heure. Bonjour, Alexis.
Bonjour.
Ah oui, Alexis, vous avez suivi Alphonse, a dit, bon, écoutez, nous, on ne sait même pas ce que ça veut dire SNEL, on n'a jamais eu le courant, mais le problème est réel, mais de l'autre côté de la frontière, parce qu'il parlait de pays voisins, y a-t-il moyen, y a-t-il eu, par exemple, des initiatives de pouvoir importer même l'électricité de l'Ouganda, par exemple, pour permettre à toute la bande frontalière d'être desservie en électricité, Alexis.
Oui, Pierrot, ce que vous dites là, c'est vrai. Mais je vous dirais qu'il y avait déjà un projet de raccordement de courant à partir d'Arua, dans l'Ouganda. Mais on a tout fait, on a arrangé les poteaux, les fils, tout était là, mais les lacements du courant, jusqu'aujourd'hui, on attend. Et avec tout ça, les poteaux sont déjà par terre, les fils par terre. Et c'est peut-être le problème du gouvernement. Le gouvernement n'est pas sérieux dans ce qu'il fait. C'était vraiment un beau projet, ça allait aussi au Ciaru, parce qu'ici on a les problèmes du courant. Les gens se démènent par-ci par-là, on utilise les moteurs communément appelés Dianfa. On paye $50 par mois. Or, si le courant là venait, ça allait quand même aider la population, on allait rabaisser les prix. Mais jusque-là, nous continuons à souffrir, chacun ses débris, avec des petits moteurs, comme il y a le problème des panneaux, maintenant chacun cherche les fils qui a acheté les panneaux. Et pour voir la télé, ça devient aussi difficile.
Alors, on sait tout ce qu'il y a comme conséquence avec la, quand on a ces difficultés d'accès à l'électricité dans la ville de Kinshasa, ça devient difficile d'accéder à d'autres services, vous l'avez dit, comme regarder même la télévision. Mais le projet, c'était d'importer le courant à partir d'Arua en Ouganda. Il y a eu des poteaux, des câbles, mais malheureusement, le projet n'a pas été réalisé jusqu'à ce que le poteau renversé, les câbles coupés, dommage. Et vous souhaitez qu'il y ait du sérieux dans ces projets d'accès à l'électricité. Félix, vous êtes en Bujima et bonjour Félix.
Bonjour.
Non, on revient à vous. On sait que Mbujimayi, Kananga, ailleurs, comme on le dit, à Arua, partout, le même problème se pose. Il faudrait définir, comme le disait notre invité tout à l'heure, d'études qui doivent en principe déterminer de quelle manière chaque milieu peut être desservi en électricité. Alors, quel est le cas de Mbujimayi aujourd'hui, Félix?
Oui, Mbujimayi, en tout cas, les calmes du courant, ça date avant ma naissance. On nous a toujours nourri des projets, des promesses. Nous avons des centrales. Il y a Tchana 1 et Tchana 2. Tchana 1 était prévu pour la Guinée, Tchana 2 c'était pour la population. Les deux centrales étaient capables d'alimenter les rapports orientales dans son ancienne configuration. 24 heures sur 24 sans problème. Mais les fonds, c'est quoi? On dit toujours, les tribunes sont en panne, on a commandé, il y a de nouveaux matériels, on a réceptionné, on a mis des techniciens, et ça ne résout jamais des problèmes. Si le courant vient aujourd'hui, il faut attendre 4 jours. Si un quartier est sérieux aujourd'hui, il faut 2 semaines. Et il n'y a pas longtemps, les Chinois sont arrivés, on a évalué 27 millions, 30 millions de dollars, tout serait résolu. Mais moi, je m'inquiète, est-ce que les Kassai peuvent manquer 30 millions de dollars? Où la RDC va dire 30 millions de dollars pour qu'on remette en fonctionnement tous les débarrages Yinka 1 et Tchana 1 et Tchana 2. Et on nous promet de nous connecter sur Yinka à partir de Chimbulu, très 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 loin, avec tous les coûts de transport, les câbles, alors qu'il y a Tchana à quelques 35 kilomètres de village. Je ne comprends pas comment on peut chercher à faire des dépenses très coûteuses, alors qu'il y a une possibilité moins coûteuse sur place et à côté même sur Algérie Binance. On nous promet d'attendre. Sur Yinka, qui est haute tension. D'ailleurs, les techniciens nous disent que pour alimenter la population avec la haute tension, il faut convertir ça en basse tension et ça coûtera encore trop cher. Et les techniciens nous disent, c'est une mauvaise foi, c'est une façon de nous endormir, ou c'est quoi, ou juste ce que nous
disons. Cette histoire de courant, voilà. Oui, on va poser.
On n'a pas d'eau, parce que la SNET n'a pas du courant pour nous donner de l'eau.
Voilà, c'est ça la conséquence. Vous avez dit, c'est avant votre naissance que le problème se pose. On pourra voir avec notre invité cette possibilité des soutirages, comme on l'appelait, sur la ligne haute tension Yinga qui passe par Chimbulu. Ça a été promis au Kassai occidental dans les temps, Kassai oriental. Alors, vous estimez que, est-ce que c'est un problème de volonté, c'est un problème de technique, ou qu'est-ce qui manque pour résoudre cette question de l'électricité en Mbujimayi, qui par conséquent entraîne aussi l'absence d'eau potable? Ça revient tout le temps sur les antennes de Radio Capi. Merci beaucoup, Félix Etienne. Vous êtes à Guémena. Bonjour, Etienne.
Bonjour, Radio Capi. Bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, Etienne.
Ok, merci, monsieur le journaliste. Je pense que je partage l'avis de mon prédécesseur là. Le problème de l'énergie des courants électriques, le problème, c'est presque partout à travers le pays, à travers la RDC. Et ce qui est vrai, c'est comme a dit mon prédécesseur là, c'est que la RDC ne pouvait pas souffrir de cette carence. Pourquoi je l'ai dit? Parce que comme il venait de dire là, le barrage qui est là, c'est un barrage à très grande capacité qui pouvait alimenter l'ensemble de la RDC. Vous comprendrez que dans certains territoires, non loin même du barrage là, il n'y a pas d'électricité. À travers les pays, il n'y en a pas. Les problèmes par exemple, de système solaire, je pense que c'est bien. C'est parce que, bon, si on a trouvé qu'à travers les pays, on peut installer des panneaux solaires, on peut avoir ce système pour pallier à cette situation, c'est bon. Mais sinon, moi, j'aurais souhaité que le gouvernement congolais puisse mettre en place une politique pour voir qu'est-ce qui m'a concrètement pour que le barrage Kinga qui est là, il y a une très grande capacité mondiale africaine même là, ne puisse pas alimenter l'ensemble de notre
territoire national. Donc, s'il y a volonté politique, s'il y a vraiment, s'il n'y a pas mauvaise foi, on peut dans...
On peut résoudre cette question. Mais on voit tout le mal avec, avec les problèmes des dingas aujourd'hui. On voit la SNEL avec toutes les difficultés du monde, des groupes qui de temps en temps tombent en panne, les promesses des réhabilitations. Maintenant, il a été dit depuis le début de l'année que des groupes qui étaient en panne ont été réhabilités. Ça pouvait bien permettre d'améliorer la desserte, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs. Mais alors, vous revenez encore à cette question de volonté politique. C'est ce qui s'est demandé tout à l'heure. Et Rémi s'est demandé tout à l'heure s'il n'y a pas de volonté pour permettre à ce que l'ensemble du territoire national soit électrifié. Merci beaucoup. Nicolas, vous êtes à Kananga, au Kasaï Central. Bonjour Nicolas.
Bonjour auditeur et bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Kasaï.
On vous écoute Nicolas.
Vraiment, je vous remercie tout d'abord de ce sujet vraiment très passionnant. On s'est demandé comment nous devions aussi nous exprimer par rapport à l'initiative que le président a prise. D'abord, je m'en vais vous informer que les problèmes de l'énergie solaire à Kananga s'est venu aggraver la situation. Parce que depuis lors, on ne s'attendait pas à recevoir le mégatron soi-disant. Parce que lorsque nous allons au fond du problème et l'initiative que le président a pris, les problèmes de l'énergie solaire ne va plus profiter toute la ville au maximum. Par exemple, l'industrialisation de la ville. Parce que avec le courant, la régie des eaux, cette entreprise, par exemple, peut profiter du courant. Mais qu'on essaie un peu d'envoyer la direction de ce courant à la régie des eaux. Est-ce que ça va vraiment suffire? Donc, c'est vraiment fait par rapport à l'éclairage public. Parce que l'industrialisation, ça ne pourra plus marcher. Et ce que nous constatons, c'est quoi? Notre province est divisée en cinq communes bien précises. Mais nous constatons que la nuit, lorsqu'on envoie l'éclairage public, nous remarquons qu'il y a certaines communes qui n'ont plus du courant. Il y a des laissages, il y a coupures. Soit disant que les courants ne s'y plantent pas de prendre toutes les incommunes. Et alors, lorsque nous voyons au fond du problème, donc cette initiative-là est bonne et ce n'est plus profitable à la ville. Et depuis, c'est que le projet de chute 4ND, parce que notre province est environnée de beaucoup de rivières. Nous avons la rivière Loua, nous avons la rivière Gaza, nous avons la rivière Loupi. Et c'est vraiment très facile à ce que nous puissions avoir du courant. Mais les procédures d'aller prendre le mégatron, je me demande, est-ce que c'est pour une durée ou bien ça va suffire? C'est vraiment tout à fait incroyable. Parce que voilà. Je me rappelle, lorsque le gouverneur Kapu Kongoï était gouverneur de la ville, il avait pris l'initiative de fabriquer un barrage sur la rivière Lulua. Mais ça n'a plus tenu. Mais nous avons le projet Inga, le barrage Inga qui nous passe.
Alors, rappelons Nicolas que c'était ce qu'on appelle, je crois bien, sous réserve de notre invité hydrolien, quelque chose comme ça, on va voir avec notre invité qui était installé sur la rivière, qui n'a pas pu marcher. Mais alors, la réalité, elle est là, vous l'avez dit, avec les panneaux solaires, vous ne pensez pas que ça peut résoudre le problème. Rappelons quand même que le réseau des distributions de la SNEL à Canada, c'est un réseau qui a disparu presque vétuste, alors ça sera difficile en utilisant ces réseaux-là qu'on atteigne l'ensemble de la ville. Mais vous revenez au projet Chute 4ND. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, Félix, vous regardez la ligne. On revient à notre invité rapidement. Vous avez suivi les inquiétudes des uns et des autres, les soucis en Mbujimayi, à Guémena. On est revenu sur Inga. Et les trois compatriotes ont évoqué la question de la volonté politique hein, dans tous ces débats autour de l'amélioration des essais en électricité. Ingénieur Victor Kendi.
Tranquilliser notre ami de Mbujimayi. Moi, je n'aime pas parler de la volonté politique parce que les erreurs que nous commettons dans ce pays, ce sont des erreurs techniques. Je préfère mieux que les politiques s'occupent de la politique et qu'ils laissent aux techniciens de s'occuper de la technique. Et que ce n'est pas les politiques qui doivent dominer, mais c'est plutôt que la technique domine. Mm-hmm. Et on arrive à cette manière d'agir, je crois que tous les problèmes ne se poseront plus. Concernant Mbujimayi, il y a deux centrales, comme il venait de le dire. Mais ces deux rivières ont un défaut par rapport à la construction des centrales. Ce sont des rivières qui drainent une grande quantité de sable. Mm-hmm. Et au moment où il y a beaucoup de sable qui rentre dans les machines, donc dans les turbines, ça s'appelle le débit solide élevé, ça pose problème au fonctionnement de ces machines-là. C'est comme ça qu'il y a toujours de pannes. Et c'est le même cas sur Inga. On a trouvé qu'il serait mieux de prendre le courant sur le grand Katende et l'amener à Mbujimayi. Pourquoi? Parce que la rivière Lulua n'est pas navigable, il draine moins de sable et la centrale, les centrales construites sur la Lulua fonctionneraient beaucoup mieux, sans problème, et pourraient servir les deux provinces. Donc, autrefois, les deux provinces, ça peut être maintenant trois ou quatre provinces, donc le Kasaï central, le Kasaï oriental, et le
Lomami est en cours.
Lomami est en cours.
Oui.
Pourquoi? Parce que les potentialités de la Lulua sont meilleures. Donc, réparer Lubilanji et préparer Tchala 1 et Tchala 2 sur la Lubilanji, ce serait encore en quelque sorte du gaspillage. Pourquoi? Parce qu'à la construction, on n'avait pas tenu compte d'endiguer l'excès de sable qui rentrerait dans le machin. Donc,
voilà,
le drainage.
Voilà. Mais il y a beaucoup de réactions sur la page Facebook des Paroles aux Outils. Je vais revenir à vous pour la conclusion. Et Alain Bolodia nous a écrit, il estime que la rationalité voudrait que l'électrification du pays puisse répondre premièrement aux besoins de l'économie et les domestiques après. Par ailleurs, dans la littérature économique, pour atteindre le développement, il faudrait préalablement franchir le deux autres phases, à savoir le degré des pays à revenus intermédiaires et l'émergence. Dans tous les cas, la condition première reste une croissance soutenable qui doit passer en principe par le développement du secteur de l'électricité. Jonathan Bamoyo Chassouma, lui, il salue l'initiative au Kasaï. Il dit, mais écoutez, il y a beaucoup de coins de la ville qui ne pourront pas bénéficier de cette électricité. Gustave Mukindi, Dieudonné Meya, tous reviennent sur ça. Bénédiction Mihigo, qui est à Bukavu, lui dit, l'initiative est salutaire. La desserte en électricité au moyen des centrales hydroélectriques sur l'ensemble du pays reste, à mon avis, la voie. Pour lui, il estime que l'hydroélectricité a connu un échec à travers le pays, alors il faut se tourner à d'autres sources. Johanna Colette, qui nous a écrit des Mbandaka, elle estime qu'il faut encourager, mais on regarde aujourd'hui à Kinshasa, même ailleurs, que la SNEL a beaucoup de difficultés, alors il faudrait que les vœux des cinq chantiers soient exaucés et que l'ensemble du pays soit électrifié. Félix, vous êtes en Mbandaka, on revient à vous rapidement, en une minute, votre point de vue avant de conclure avec notre invité. Félix, vous êtes avec nous. Félix, vous êtes en Mbandaka. C'est dommage qu'on a perdu Félix sur sa ligne. Maintenant, on retourne sur la page Facebook où il y a beaucoup de messages. Germain Tabassé dit ceci. Tout ce que je sais, c'est que pour l'éclairage public et domestique et pas pour l'électroménager. Quand on regarde cette histoire de centrale solaire, je me demande si ça peut permettre à la population d'avoir même des mini-industries. Félicien Kalala, qui est à Kananga. Beaucoup de messages sont venus aujourd'hui de Kananga où cela a été fait. Chad Akasongo, il dit ceci étant un technicien, ce système ne présente pas une énergie suffisante selon l'intensité du soleil et les intempéries dans le Kasaï. Ça va être assez difficile hein, pour que la population ait un courant de qualité à tout moment, vu le lieu où cela est implanté. Cédric Ngalamoulou qui est à Kinshasa et dit ceci, ces projets étaient très attendus depuis très longtemps, mais avec beaucoup de tâtonnements. Mais d'un côté, on nous parle de Katende qui est exécuté à quelques pourcentages. Comment on peut arriver enfin à résoudre la question de l'électricité à Kananga pour que tous les quartiers de Mofianfon puissent être éclairés? Merlin Chinga est revenu sur la même chose. Samy Dimin Chimana, lui, revient sur le problème de l'énergie et hydroélectrique à travers le pays. C'est le même point de vue partagé par Abel Sango-Zaku sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Ingénieur Gendi, on revient à vous pour conclure cet échange. Vous avez dit, le problème, vous ne le considérez pas qu'il est politique, mais il est plutôt technique et c'est depuis des générations que nous évoquons ces problèmes techniques et depuis des générations aussi que la situation d'accès à l'électricité continue à se poser dans notre pays, au-delà des structures créées par le pouvoir public, au-delà des études menées à travers le pays. Enfin, qu'est-ce qu'on peut retenir pour clôturer cet échange, Ingénieur Kendi Victor?
Merci beaucoup. Et c'est comme ça que je dis. Par exemple, s'agissant de la centrale solaire, vous avez suivi tous les intervenants, ce qu'ils ont dit, c'est un échec. Parce qu'on a voulu se porter au président de la République le chapeau, Heureusement qu'il a été jugé pour dire qu'il a été informé, il a autorisé, et que c'est pas lui, en d'autres termes, c'est pas lui qui a offert cette centrale, c'est déjà du positif. Mais parce qu'il a porté le chapeau d'avoir lancé, et bien qu'il est venu au gouvernement provincial d'améliorer sa copie, qu'on mette une centrale solaire, convenable, tel qu'il a été offert par Mégatron. Et l'avantage qu'on améliore, il faudrait qu'on installe une centrale à puissance nominale dépassant 3,3 MW. Si on aurait fait Kibachi à la place de cette centrale solaire, je crois qu'il n'y aurait jamais eu de problème. Mm-hmm. Pour l'ensemble du pays, nous disons, qu'on essaye de regarder les potentialités réelles de chaque contrée et qu'on définisse le projet approprié à ces potentialités, eh bien, on aurait résolu le problème une fois pour toutes. Ce qui nous manque, ce n'est pas la volonté politique, mais c'est plutôt la politique convenable du développement du secteur de l'énergie, les interférences des politiques qui trouvent en tous les projets les instruments de recette et avis de fonds publics au lieu d'aider le pays à se développer et de satisfaire la population.
Merci.
À vivre dans les meilleures conditions. Je vous remercie.
Merci beaucoup, ingénieur Victor Kendi. Je rappelle que vous êtes ingénieur en hydroélectricité. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci, vous avez été nombreux à travers le pays à vous exprimer autour de cette question. Mais je vois le débat, il continue sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs où les internautes sont en train d'échanger entre eux autour de cette question. Merci pour votre fidélité.
Allô? 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 Il ne répond pas?
On se retrouve demain vendredi pour un autre numéro des Paroles aux Auditeurs. Merci à toute l'équipe des productions. Gilles Longembo était à la réalisation et la coordination de ces magazines mis en onde par Héritier Tidiakala. Thierry Lamey, j'ai eu le plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin Sebujambe. Paroles aux Auditeurs, c'est aussi sur www.radiotapi.net. Au revoir.